suite le journal avec Cécile Bidot. Bonsoir.
Bonsoir. Mieux vaudra l'avoir toujours à portée de main. Le pass sanitaire va être étendu dans les jours qui viennent. Le Conseil constitutionnel a validé la loi qui le rend obligatoire dans les transports longue distance, au restaurant et dans les cafés à l'intérieur comme en terrasse, dans les séminaires, les salons. Les sages censurent en revanche la possibilité de mettre fin à un CDD pour les salariés qui travaillent dans des secteurs où il est obligatoire. L'isolement des malades est également rejeté. Dans ce journal, explication complète et réaction secteur par secteur. Et vous y revenez aussi longuement dans le téléphone sonne. Bonsoir Marion Lourdes.
Bonsoir. Et oui, est-ce que ces mesures sont équilibrées? Est-ce qu'elles sont proportionnées pour parler le langage du Conseil constitutionnel? Et que vont-elles changer pour vous demain? On en parle avec un député de la majorité qui a travaillé sur le texte et un professeur de droit public. Vos questions, vos témoignages, vos craintes aussi peut-être au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
Dans ce journal, nous serons en Grèce où les incendies de l'été menacent la cité antique d'Olympie, là où sont nés les Jeux Olympiques. Les JO à Tokyo aujourd'hui avec deux médailles pour la France, l'or en karaté, l'argent au décathlon et des médailles assurées demain en basket, handball et volley. À la fin de ce journal, l'histoire est digne d'un roman. Des manuscrits de Louis-Ferdinand Céline viennent de réapparaître mystérieusement, un trésor littéraire qui avait disparu à la Libération.
France Inter.
Le pass sanitaire va entrer dans une bonne partie de notre vie quotidienne. Le Conseil constitutionnel a validé cet après-midi le projet de loi prévoyant son extension. Le texte a été voté il y a 10 jours au Parlement. Mais le gouvernement ainsi qu'un groupe de députés et de sénateurs voulaient vérifier qu'il était bien conforme à la Constitution et qu'il respectait les libertés individuelles. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Les sages ont donc répondu oui pour l'essentiel.
Oui, d'abord pour l'extension du pass sanitaire. Sanitaire, mesure phare, extension donc du pass sanitaire aux bars et aux restaurants, y compris en terrasse, mais aussi aux avions, aux trains, aux autocars pour les longs trajets, aux foires, aux séminaires, aux salons professionnels, à certains grands centres commerciaux aussi, sur décision des préfets, et puis aux hôpitaux et aux maisons de retraite pour les patients non urgents et pour les accompagnants. Le Conseil estime que l'équilibre est respecté entre protection de la santé et libertés individuelles. Feu vert en suite à la vaccination obligatoire, deuxième grande mesure, vaccination obligatoire des soignants et des professions en contact avec des publics fragiles. Les sages jugent que cette mise en œuvre est suffisamment progressive puisque les soignants ont jusqu'au 15 octobre pour être complètement vaccinés. Voilà donc les deux piliers du texte validés.
Mais pour autant, Simon, ce n'est pas un boulevard pour le gouvernement. Certaines dispositions ont été censurées.
Oui, il n'y aura pas d'isolement obligatoire avec amende à la clé pour tous les cas positifs. Il n'est pas garanti, estime le Conseil, que cette mesure soit nécessaire, adaptée et proportionnée. On en restera donc, comme depuis le début de la crise, à l'auto-isolement. Et puis les sages censurent aussi la possibilité pour les employeurs de mettre fin au contrat d'un CDD qui ne présenterait pas de pass sanitaire. En revanche, ils approuvent la possibilité de suspendre le contrat de travail et la rémunération des salariés en l'absence de pass.
Et que dit ce soir l'exécutif de cette décision?
Alors évidemment, à l'Élysée et à Matignon, on se félicite de voir les grands principes annoncés par Emmanuel Macron le 12 juillet validés, validation qui va permettre, écrit Jean Castex dans un communiqué, le plein déploiement de la stratégie de lutte contre la Covid-19. Clairement, c'est un soulagement pour le gouvernement qui va pouvoir tenir son calendrier, même si ses opposants, RN et Insoumis en tête, promettent de poursuivre la bataille politique, et alors qu'une nouvelle manifestation est prévue samedi.
Merci Simon, et on rappelle que le gouvernement a prévu de mettre en œuvre ce pass sanitaire élargi lundi. Il s'agit de présenter une vaccination complète, un test négatif ou un certificat de rétablissement du Covid dans tous les lieux validés ce soir par le Conseil constitutionnel. C'est le jeu politique. Là où le gouvernement retient la validation, l'opposition préfère mettre l'accent sur la censure partielle. Le sénateur Les Républicains Roger Karoutchi estime que cette décision du Conseil constitutionnel prouve que le Sénat a eu raison de mettre le doigt sur certaines mesures sensibles.
C'est une leçon. C'est-à-dire que lorsqu'au Sénat, nous avions dit au gouvernement « votre texte initial n'est pas bon », lorsqu'il prévoyait par exemple le licenciement automatique des salariés en cas de non-vaccination, lorsqu'il prévoyait le contrôle généralisé des centres commerciaux, etc. Ou par exemple sur effectivement l'isolement obligé, contrôlé, pisté quasiment. Au Sénat, on avait dit halte au feu, vous allez vers un texte trop liberticide. Autant nous sommes évidemment conscient que du fait de l'épidémie, il faut prendre des mesures de contrôle, des mesures de lutte contre l'épidémie, avec la vaccination, avec même le principe du pass sanitaire sur lequel nous étions d'accord, autant nous avions dit, attention, il y a un certain nombre de mesures qui ne vont pas passer.
Roger Karoutchi, sénateur LR sur France Info. Parmi les deux mesures censurées ce soir, il y a donc la rupture du contrat à durée déterminée, si le salarié refuse de présenter un pass sanitaire quand son activité le requiert. Pour ceux qui sont en contrat indéterminé, en revanche, la suspension du contrat de travail et donc de la rémunération est validée. Concrètement, dans les entreprises, comment cela va s'organiser, Fabien Cazot ?
Tous les salariés en contact avec du public seront logés à la même enseigne, quel que soit leur contrat de travail. Ils seront tenus de présenter un justificatif de vaccination, un test négatif ou un certificat de rétablissement s'ils ont été malades. S'ils ne le font pas, deux options se présentent. La première, la plus amiable, c'est de poser des jours de RTT ou de congés payés en accord avec l'employeur, le temps d'obtenir les pièces demandées. Sinon, deuxième option, beaucoup moins amiable, l'employeur peut signifier au salarié la suspension de son contrat de travail, donc de sa rémunération, qui reprend dès que le salarié produit les justificatifs requis. Si la suspension se prolonge au-delà de 3 jours, un entretien devra avoir lieu pour étudier les possibilités d'affectation sur un autre poste, moins exposé au public, au moins de manière temporaire. Le Conseil constitutionnel confirme l'entrée en vigueur de ces mesures au 30 août, et ce, jusqu'au 15 novembre.
Et cette possibilité d'interrompre un contrat de travail pour défaut de passe fait évidemment réagir du côté des syndicats. Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière, continue à la dénoncer.
Ça reste une menace, hein. Un salarié ne peut pas vivre sans son salaire, donc ça reste une menace lourde et je ne crois pas que ce soit la meilleure méthode de faire en sorte que les uns et les autres soient rassurés et se vaccinent d'autant plus facilement et rapidement. La difficulté est que reclasser un salarié que vous ne parviendriez pas à rassurer, il y aura toujours des personnes complètement apeurées. Il faut qu'on arrive à ce qu'il y en ait le moins possible, bien évidemment, mais d'un secteur d'activité à l'autre, si vous êtes dans un café, un restaurant, ce sera difficile de trouver un poste qui vous écarte de l'obligation de disposer d'un pass sanitaire valide. Donc ça reste quand même une disposition qui va créer des inégalités de situation et qui reste une menace lourde pour les salariés.
Le secrétaire général de FO avec Manuel Ruffez. Ce pass sanitaire sera obligatoire donc pour se rendre à l'hôpital, à l'exception des urgences, Simon le Baron vous le disait tout à l'heure. Les patients ayant un rendez-vous programmé ou des proches rendant visite à un malade devront s'y conformer. Ces derniers jours, certains représentants du monde médical s'inquiétaient de cette nouvelle contrainte imposée aux établissements de santé. En visite au centre hospitalier d'Aix-en-Provence cet après-midi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a lancé un message à rassurer. Personne ne sera privé de soins en fonction du pass sanitaire, a-t-il dit. Sans doute pour être aux premières loges, pour montrer aussi que leur mobilisation continue, les militants anti-pass sanitaire se sont rassemblés cet après-midi devant le Conseil constitutionnel, non loin du musée du Louvre à Paris. Un millier de manifestants sont toujours présents actuellement. Le reportage sur place de Maxime Tellier.
Conseil constitutionnel valide le pass sanitaire.
Des sifflets pour accueillir la décision des sages. Ici, les manifestants espéraient très peu du Conseil constitutionnel et l'annonce n'a fait que renforcer leur opinion sévère sur le pass sanitaire.
C'est qui est content d'avoir cette merde ? On n'est pas content, hein, franchement. Pass sanitaire pour partir faire les courses ? Pour nos enfants pour partir dans les parcs pour jouer ? Mais c'est quoi ce monde-là ? Moi, je trouve qu'on est dans un monde de fous.
Un rassemblement dans le calme malgré tout, mais pour dénoncer la dictature qui, selon eux, s'installe en France. Sophie Tissier est membre du collectif Paris pour la Liberté, organisatrice de la manifestation.
Ce mouvement contre le pass sanitaire, c'est la continuité du mouvement Gilets jaunes parce qu'on dénonce la dérive du système politique aujourd'hui en France qui ne permet plus d'être démocratique et qui ne permet plus le vrai débat citoyen.
Et les participants sont déterminés, hein, quitte pour certains à démissionner de leur travail pour échapper au vaccin, quitte aussi parfois à s'isoler de leurs proches.
Les gens sont assez modérés dans ma famille, c'est plus autour de mes relations d'amitié, de collègues, mais la vérité c'est que je commence à être très seule.
Et à Paris, les manifestants se donnent rendez-vous samedi prochain, même endroit, 14h.
Maxime Tellier avec les moyens techniques de Martin Troadec, notre équipe qui nous signale désormais quelques tensions avec les forces de l'ordre. Vous retrouvez la liste des mesures validées par le Conseil constitutionnel et celles qui ont été censurées sur franceinter.fr et vous prenez la parole sur ce thème dans le téléphone sonne dans quelques minutes. Même s'il reste marginal, le trafic de faux passes sanitaires existe en France. Au moins 6 réseaux ont été démantelés ces derniers jours, notamment en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. En Gironde, 2 salariés du vaccinodrome de Bordeaux ont été interpellés pour avoir délivré de fausses attestations. Moderna annonce que son vaccin contre le Covid-19 est efficace à 93%, 6 mois après l'injection de la seconde dose. Des essais cliniques ont été menés sur plusieurs milliers de personnes selon le laboratoire américain.
France Inter. Cécile Bideau.
L'or pailleur français du jour au JO de Tokyo est un vrai pionnier. Steven Dacosta est devenu cet après-midi le premier champion olympique de karaté. La discipline était au programme pour la première fois cette année. Il accroche une médaille d'or à son cou dans la catégorie des moins de 67 kilos. Cette première expérience olympique sera peut-être unique, car le karaté n'est pas prévu au programme à Paris en 2024. D'autres médailles à venir, garanties en volley, hand et basket. Nos trois équipes nationales masculines sont qualifiées pour les finales et toutes affichent l'or pour objectif. Bonsoir Alexandre Berthaud.
Bonsoir.
Comme il faut bien choisir, on commence avec les basketteurs.
Ce sont eux qui ont donné le plus de sueur froide aux supporters. Aujourd'hui, les Français qui affrontaient la Slovénie, ils ont gagné 90 à 89. Un petit point et les Slovènes avaient même la balle de match pour inscrire le dernier panier et donc passer devant. Le tir de Prepelic allait rentrer quand Batman a surgi pour sauver la France.
Un point d'écart, demi-finale aux Olympiques, c'est le truc, tu rêves qu'on est dans ton jardin. Et voilà, je devais le faire le stop. Je devais le faire. J'ai 12 ans de carrière en équipe de France où j'ai fait des bonnes choses et j'ai fait des mauvaises choses dans les moments clés. Et là, c'est l'action, je pense, qui efface tout ce que j'ai fait de mal auparavant.
Batman, c'est le surnom de Nicolas Batum, le capitaine, auteur d'une action extraordinaire. Victoire donc et finale à venir contre les Américains qui seront tout de même favoris. Les volleyeurs aussi se sont qualifiés brillamment. 3-7-0, ils n'ont laissé aucune chance à l'Argentine. Ils iront affronter la Russie en finale. Enfin, les handballeurs nous ont davantage habitués à briller au jeu, mais ces dernières années, ils étaient en perte de vitesse. Au meilleur moment, l'équipe de France brille à nouveau. Victoire ce matin en demi-finale face au Pharaon, 27-23 contre l'Égypte. La finale sera la revanche de 2016 à Rio contre le Danemark.
Alors Alexandre, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les sports collectifs marquent des points à Tokyo cette année.
Ça n'était jamais arrivé pour retrouver une nation aussi performante sur le BHV basket hand volley. Il faut remonter aux Jeux de Barcelone en 92 avec la CEI à l'époque, Communauté des États indépendants, qui réunissait plusieurs républiques de l'ex-URSS. 3 finales pour l'instant, ce n'est peut-être pas terminé. Demain, c'est au tour des féminines. Les handballeuses affrontent la Suède à 10h. Elles sont sur une bonne dynamique. Les basketteuses aussi, ce sera contre le Japon à 13h. Pourquoi pas, soyons fous, un 5 sur 5 en finale.
Et cette journée a décidément été riche en émotions pour les Français. L'autre événement de ce jeudi, c'est la médaille d'argent de Kevin Mayer. Le recordman du monde du décathlon était venu chercher de l'or, mais il est arrivé avec le dos bloqué et a réalisé une première partie de concours pas du tout à sa mesure. Mais c'est la marque d'un grand champion. Il est allé chercher des ressources insoupçonnées pour offrir la première médaille française en athlétisme. La famille de Kevin Mayer n'était évidemment pas à Tokyo ces deux derniers jours, mais devant sa télévision à Valence pour l'encourager. Reportage de Marie Roussel.
L'incroyable prestation de Kevin Mayer au lancer de javelot les a remontés à bloc. Supporters, voisins, amis, famille, ils applaudissent à tout rompre leur champion et suivent la dernière épreuve, le 1500 mètres, les yeux rivés sur l'écran géant. Quand le drôme ardéchois franchit la ligne d'arrivée 14e, il y a comme un moment de flottement dans la salle, très vite dissipé après l'affichage des résultats finaux. Kevin Mayer ramène une médaille d'argent à la maison. Son père, André Mayer, en est tout ému.
On a encore vécu des moments énormes et beaucoup de fierté. Et notre kéké national, il nous surprend tout le temps. Il est trop fort.
Champagne.
Une coupe à la main, Carole Meyer, la mère du champion, peut enfin décompresser.
Je vais mourir un jour, c'est sûr. Je vais mourir en regardant un décathlon, mais ça c'est Kevin. C'est Kevin qui est capable de nous faire passer par tous les sentiments en fait.
Des parents fiers de leur fils et qui n'ont qu'une hâte, fêter ce succès avec lui à son retour de Tokyo.
Marie Roussel de France Bleu Drôme Ardèche. Depuis le début de la semaine, nous vous racontons l'histoire rocambolesque de la sprinteuse Kristina Tsimanouskaya. Après avoir critiqué les instances sportives de son pays, la Biélorussie, elle avait été menacée d'être rapatriée de force par un régime autoritaire qui ne supporte pas la critique et l'opposition. Elle avait alors appelé la communauté internationale à l'aide et la Pologne lui a accordé un visa humanitaire. Depuis hier, elle est réfugiée à Varsovie et la jeune femme s'est exprimée aujourd'hui. Sur place, la correspondante de France Inter, Sarah Bakaloglou.
C'est une conférence de presse sous haute sécurité qui s'est tenue ce jeudi à Varsovie. Si la sprinteuse de 24 ans dit aujourd'hui aller bien, les derniers jours sont difficiles à oublier pour la jeune femme.
Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une situation comme celle-ci puisse arriver un jour. J'ai été très émotive et nerveuse ces derniers temps, mais je sais que des jours meilleurs arrivent.
Jusqu'au dernier moment, dit-elle, elle a hésité à revenir en Biélorussie. C'est sa grand-mère au téléphone qui lui conseille de fuir. Alors à son arrivée à l'aéroport de Tokyo où elle doit embarquer pour la Biélorussie, la sprinteuse traduit sur son portable « J'ai besoin d'aide » en japonais.
Ma grand-mère m'a dit « À la télévision, on parle très mal de toi. On dit que tu as un problème de santé mentale, donc tu pourrais être envoyée dans un hôpital ou en prison. »
Désormais à Varsovie, la jeune femme souhaite adresser un message aux autres athlètes restés en Biélorussie.
Si des athlètes biélorusses veulent quitter le pays, nous ne les laisserons pas seuls et nous leur viendrons en aide.
Kristina Tsimanouskaya espère désormais poursuivre sa carrière sportive depuis l'étranger. Varsovie, Sarah Bakaloglou, France Inter.
En plein JO, la mobilisation est maximale en Grèce pour sauver des flammes le berceau de l'olympisme. Le site d'Olympie dans le Péloponnèse est toujours menacé par les incendies qui font rage depuis une semaine. Angélique Couronis.
Chaînes humaines, tranchées, voitures de pompiers qui font barrage, arbres abattus. Depuis hier soir, les pompiers et les volontaires font tout ce qu'ils peuvent pour protéger le site antique d'Olympie, vieux de 2500 ans, où se sont déroulés les premiers Jeux Olympiques. Pour le ministre de la Protection du Citoyen et des Droits de l'Homme, il ne s'agit rien de moins qu'un véritable corps à corps avec le feu. Dépêché sur place avec la ministre de la Culture, il supervise les opérations. Jusqu'à présent, le site est sauvé. Mais les flammes l'ont pratiquement léché hier soir. Tous les villages des alentours ont été évacués et plus le temps passe, plus les évacuations se multiplient. Car Olympie est au milieu d'un véritable brasier. Tout autour, les feux avalent forêts, garrigues et cultures. En un rien de temps. Des dizaines de maisons sont déjà parties en fumée et d'importants secours ont été déployés ce matin et renforcés ce soir. Athènes, Angélique Cournis pour France Inter.
Les incendies en Grèce, c'est à voir en images sur le site internet et l'application de France Inter. C'est un voyage au bout de l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. 60 ans après la mort de l'écrivain, plusieurs romans pourraient être bientôt publiés car des milliers de pages de manuscrits viennent de refaire surface. L'histoire incroyable est révélée par le journal Le Monde aujourd'hui. Ces pages avaient été dérobées à Céline en 1944. Lui qui était antisémite, proche des milieux collaborationnistes, avec quitter la France à la fin de la guerre pour éviter les représailles. Bonsoir Alexis Demeyer.
Bonsoir.
On a d'abord envie de savoir comment a été faite cette découverte littéraire majeure.
Un ancien journaliste de Libération est au cœur de cette affaire. Il y a une quinzaine d'années, Jean-Pierre Thibaudat se fait remettre par un mystérieux lecteur de Libé des sacs remplis de feuillets en échange d'une promesse, ne rien rendre public avant la mort de Lucette Destouches, la veuve de Céline, qu'on écoute dans une archive de 1969.
Quand il travaillait, il me lisait donc le chapitre le soir de son travail. Il faisait des mais à chaque fois, il reprenait le tout. Il arrivait à faire 10 fois certainement le livre.
Lucette Destouches meurt en 2019 à l'âge de 107 ans. Jean-Pierre Thibaudat contacte alors un avocat pour organiser une rencontre avec les ayants droit. Les précieux manuscrits leur seront finalement remis dans 3 gros sacs de supermarché. Puis l'éditeur Gallimard est mis dans la confidence. Je vous propose d'écouter la réaction d'Émile Bramy, l'un des plus grands spécialistes de Céline.
Pour les gens qui aiment Céline en tant qu'écrivain, c'est absolument inouï. Je ne vois pas d'exemple équivalent d'une telle redécouverte d'un romancier aussi important. Pour l'instant, on est dans la sidération. Je suis un gamin devant le sapin de Noël, quoi, abasourdi par la richesse de ce qui a été ramené au jour.
Ouais, le trésor contient en effet l'intégralité de Casse-pipe, le roman censé former un triptyque avec Le Voyage et Mort à crédit. Il contient aussi Londres, un ouvrage dont même les Céliniens les plus férus ignoraient l'existence. La balle est maintenant dans le camp de Gallimard et dans sa collection La Pléiade. On devrait tout de même devoir patienter à Cécile, plusieurs années avant une parution en librairie.
Merci Alexis Demeyer du service culture de France Inter.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Sébastien Léas, il faut s'attendre à une nuit pluvieuse dans le nord-est.
Oui, après avoir balayé les régions du quart nord-ouest cet après-midi, les pluies continuent de s'enfoncer sur le pays. Ces pluies intermittentes s'étendent en ce moment entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine, les côtes de la Manche et le Nord-Pas-de-Calais. Durant la nuit, les pluies vont aller vers le Grand-Est, à la Bourgogne-Franche-Comté et le nord de Auvergne-Rhône-Alpes, avant de passer de l'autre côté de la frontière avant le début de journée. La matinée de demain s'annonce nuageuse avec quelques gouttes vers l'Auvergne et des averses entre les Hauts-de-France et l'Alsace. Sur le Nord-Pas-de-Calais et la Somme, ces averses pourront même être orageuses demain matin. Le ciel sera plus dégagé sur les régions de la Méditerranée et les Alpes. Le soleil va même s'étendre vers le Lyonnais l'après-midi. Et sur le reste du pays, les éclaircies vont également s'élargir en cours de journée. Les coins de ciel bleu seront même assez larges vers la côte d'Opale et les plages de l'Aquitaine demain après-midi, alors que de petites averses pourront encore glisser entre le nord de la Bretagne, la Lorraine et les frontières du Nord. Pour les températures sur les régions méditerranéennes, les maximales atteindront 26 à 32, voire 34 degrés en Corse et dans le Var. Sur le reste du pays, prévoyez 19 à 27 degrés demain après-midi.
Sébastien Léas de Météo France.